Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Bonjour à tous et bon dimanche. Merci d'être à l'écoute des grandes gueules du sport. Alors on sait que vous nous écoutez parfois en podcast aussi, quand vous courez un peu plus tard dans la journée. Peut-être que vous vous réveillez pas forcément très tôt, comme Christophe Cessieux hier. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard à l'émission. Salut Christophe.
Pas du tout, j'étais là, je discutais dans les couloirs si tu veux.
C'est vrai.
J'avais pas vu que l'heure avançait quoi. De rencontrer comme ça ses fans le matin, le soir, c'est pas toujours facile. Faut signer des autographes, faire des selfies.
C'est dur, hein, cette vie.
Surtout à 7h45 quand tu m'as.
Oh, 8h45.
Alors que quand tu te réveilles, tu es chez toi, dans ton lit, tu dis aïe aïe aïe, il va falloir speeder.
Ouais. Ou sinon, c'est l'expérience, hein. Tu savais très bien que tu avais encore un peu de marge. Tu n'es quand même pas réveillé à 9h.
Je t'avais pas beaucoup de marge.
Pascal Duprat est avec nous ce matin. Salut Pascal.
Salut les amis, comment ça va?
Bah écoute,
en fait, Christophe, salut.
Très bien.
Christophe,
très
bien. Il est comme le PSG, il a de la marge.
Ouais. Encore champion d'Europe.
Il a bien neigé en Savoie, Pascal.
Écoute, avec beaucoup de satisfaction, j'ai fait un aller-retour hier. Ouais. J'étais pas satisfait de faire cet aller-retour, qu'on s'entende, mais les monts sont enneigés. Donc il me vient à l'idée, parce que je me fais allumer par Christophe Cessieux, le grand champion, comme tous ceux qui sont sur le plateau, donc le grand champion de kitesurf et apparemment le grand champion de ski. Ben, peut-être le défier si mes hanches me le permettent.
Mais là j'imagine.
Qu'est-ce que tu fais vendredi prochain, par exemple, Pascal?
Vendredi prochain. Ouais. Oh, ben, je vais regarder du foot, certainement.
Oh, j'imagine un duel entre vous là, c'est les bronzés font du ski.
Ouais, j'ai beaucoup de duels hein, avec apparemment il y en a un qui s'est liquéfié hier, oui. Hein, que j'ai défié dans la cage.
Ouais. Ah c'est vrai que Fred Weiss, c'était Fred Weiss.
Oui,
Fred Weiss face à David Douillet, pas aussi agressif
pas serein,
que d'habitude.
Pas serein,
Il fait moins le mariole quand il a vu la bête en face quand même.
Ouais, c'est ça. On dit ça parce que Fred n'est pas autour de la table, évidemment. Ouais, on t'embrasse à distance parce qu'on a peur. Julien Beneteau, paraît-il, est le meilleur skieur des grandes gueules du sport.
Il est très élégant. Il est très élégant.
Très élégant. J'ai eu la chance de.
Il est de là-bas.
Mes parents habitaient. On habite toujours à côté du ski et j'ai eu la chance d'aller skier tous les week-ends quand je suis.
Ski en Lacoste avec un
arquet d'autre. Mais contrairement à Christophe, moi j'ai pas besoin d'infirmier ou d'infirmière pour me réveiller pour être à l'heure dans mon EHPAD, tu vois. Donc je suis content d'être avec vous à l'heure, en forme. Christophe, et j'ai hâte d'être le week-end prochain aussi avec vous.
Christophe est sidéré. Marc Madio, est-ce que tu faisais du ski quand tu faisais du vélo?
Difficile, très, 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 très peu.
Eh ouais, mais pourtant pour les trajectoires et tout, ça peut être pas mal. Hein.
Il fut une époque dans les équipes c'était recommandé d'aller en stage d'oxygénation avant d'attaquer la saison.
C'est ce qu'ils font.
Oui, c'était une catastrophe parce que les trois quarts des coureurs de l'équipe savaient à peine skier ou normalement on était là pour faire du ski de fond et deux jours de ski de fond on en avait ras la casquette. Et le grand problème des stations de ski quand tu es en groupe. Oui. Tu connais le grand problème avec un groupe de sportifs?
Les boîtes de nuit, non?
Eh ben voilà. Donc, ce qui se passait, c'est qu'au bout de trois jours, on commençait à craquer. Et la moitié du stage, t'avais une trace entre la boîte de nuit et l'hôtel. Était dans la neige. Il y avait une trace pour toute l'équipe. Et donc, en fait, tu ressortais du stage d'oxygénation plus mal que tu n'étais arrivé. Donc, ça ne s'est pas pérennisé dans le temps.
Après, pour les liens.
Par contre, il y a des coureurs qui étaient très doués en ski de fond. Jérôme Coppel, d'ailleurs,
faisait préparer sa saison comme ça.
Et surtout, un autre grand coureur, Joop Zoetemelk, à une époque. Joop préparait toute sa saison en ski de fond. Et il arrivait sur la Côte d'Azur, il était intouchable à Bessèges, Paris-Nice et autres. C'était un des meilleurs coureurs en début de saison.
Imagine
la vie des mecs. Toute l'année, ils sont sur un vélo sur la route et pour se faire plaisir, ils font du ski de fond. au niveau ludique, ils sont
le ski alpin, c'est trop dangereux pour nous. Si tu te casses une jambe.
Les fondeurs s'entraînent l'été.
L'esprit de sacrifice, les
complémentaires. Allez, les grandes gueules du sport, jusqu'à midi, on a un beau programme à 10h sur le ring. Oh là 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 là. Avant-dernier Grand Prix de la saison en Formule 1 au Qatar, c'est à 17h à suivre. suivre sur RMC. Et ben c'est simple, les trois premiers au classement des pilotes à deux grands prix de la fin sont aux trois premières places. Mais Piastri revient bien. Est-il le vrai adversaire de Norris dans la course au titre? Votez déjà sur le compte XDG du sport. On a hâte d'avoir le premier virage. Évidemment, ce sera à vivre sur RMC. La punchline, Sébastien Ogier a égalé Loeb hier en devenant champion du monde des rallyes pour la 9e fois. Les 9 titres d'Ogier sont-ils plus impressionnants que ceux de Loeb? On est vicieux, le buzzer. C'est parti très fort pour nos biathlètes féminines hier, vainqueurs du relais à Östersund. Vous savez qu'on marche sur le monde hein, avec les filles depuis 2 ans. Elles sont plusieurs pour seulement 4 places au JO. Cette densité n'a-t-elle que des avantages? Le zapping, les GG remontent le temps. Il y a 5 ans, la mort de Maradona. Et le vestiaire, le poids des responsabilités de l'entraîneur. On n'en parle pas assez. Tiens, on a que des managers, des coachs, des entraîneurs autour de la table. Bennett se retourne, mais oui. T'es un grand capitaine. Oh captain, my captain. Et puis en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG, remportez votre séjour pour 2 personnes à l'hôtel Talacap de l'île de Ré. Séjour qui comprend nuitée, petit déjeuner, déjeuner à la table de Grignon, 3 soins à l'assaut, la totale. Franchement, normalement, vous ressortez de là, c'est mieux qu'un stage à la montagne avec des cyclistes. Pour remporter votre séjour Talacap à l'île de Ré, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez sport au 73216, sport au 73216. Notre WhatsApp aussi pour envoyer vos messages au 06 12 424 424. Mais d'abord, on va parler foot. La grande spécialité marseillaise cette saison, c'est quoi? C'est l'art du retournement de la situation, positif ou négatif, comme hier.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Allez, coup d'envoi donné par Toulouse. 1-0 pour les Toulousains. Un but magnifique d'Emerson qui se l'est créé tout seul. Il a mystifié Naya Fagard et après il a fait le taf. Allez, coup d'envoi de la seconde période, ballon pour Heubière. 1-0 pour les Toulousains. Et l'OM qui n'a pas le choix, qui doit vite accélérer pour tenter de revenir dans cette rencontre. Attention à Pacheco, Pacheco, pourquoi pas Pacheco qui va dribbler, Pacheco qui va égaliser. Igor Pacheco, la tête d'Heubière. Le deuxième but pour l'Olympique de Marseille, c'est le capitaine Pierre-Emile Heubière. Il a enlevé le maillot, il fait ça. Marseille mène 2-1. Il a ce ballon, la tête, oh, l'égalisation. L'égalisation de Toulouse, quelle naïveté. Hidalgo qui vient mettre sa tête au premier poteau. La naïveté des Olympiens à 3 minutes de la fin alors qu'on était dans le temps additionnel. Monsieur Batelier qui met sifflé à la bouche. Et finalement, de partout, entre Marseille et Toulouse.
Je suis comme un son que t'aurais pas.
Eh oui, Paris peut remercier Hidalgo. Effectivement, ils avaient fait le plus dur, les Marseillais. Ils étaient menés 1-0 par Toulouse au Vélodrome et puis au retour des vestiaires. Vous l'avez entendu, ils ont réagi par Paixão, puis une offrande d'Aubameyang sur la tête d'Heuberg. L'OM allait prendre la tête de la Ligue 1 après la défaite plus tôt de Paris 1-0 à Monaco. Donc là, autant vous dire que nous, on était déjà en train de préparer des débats. Marseille leader, le titre et tout. Incroyable. Sauf que le TFC a égalisé sur une touche dans le temps additionnel et gâché la fête marseillaise. Marseille avait déjà connu le même scénario il y a un mois contre Angers. Les GG, je vous pose la question. Oui ou non, l'OM a-t-il déjà trop gâché dans la course au titre? Julien Beneteau.
Oui.
Marc Madiot.
Non.
Pascal Duprat.
Non.
Christophe Cessieux.
Oui.
Ah, deux oui, deux non. Supporters marseillais, évidemment, on vous attend au 32-16 et sur notre WhatsApp 06 12 424 424. Valentin Jamin a commenté la rencontre sur RMC hier soir au Vélodrome. Salut Valentin.
Salut les grandes gueules du sport, salut à tous.
Alors raconte-nous l'après-match au Vélodrome. On imagine que les Marseillais s'en voulaient d'avoir laissé filer la première place de cette façon hein.
Oui, des têtes basses, des visages très fermés hier après la rencontre, beaucoup d'agacement, beaucoup de frustration et cette sensation d'avoir fauté après avoir fait le plus dur, d'où la colère du défenseur central Benjamin Pavard au micro du diffuseur Ligue 1 Plus.
Déçu, très déçu. Ils ont encaissé un but sur une touche, c'est pas normal. Je pense qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps, on a bien réagi, mais ça fait chier parce qu'on se devait de gagner ce soir. Voilà, ce but à la fin, faut pas prendre des buts comme ça. Faut pas perdre des points bêtes comme on a perdu ce soir. Il faut juste se concentrer sur nous et gagner ce genre de match. Je pense qu'on aurait mérité gagner. Après, on a concédé pas mal d'occasions, mais on a su inverser la tendance et malheureusement, on encaisse ce but à la fin. Donc très déçu et énervé.
Et donc la pression d'une occasion manquée pour doubler le Paris Saint-Germain. Un seul joueur ensuite est venu s'exprimer face aux autres médias, c'est le Brésilien Igor Paixão, buteur, et il a exactement le même discours.
Claro, a gente tá triste.
On est triste de ce résultat.
On travaille et toutes les minutes sont importantes. Il faut juste finir le match. C'est difficile car ça se joue sur des détails. Il faut mieux gérer les fins de match, être plus concentré, ne plus commettre d'erreurs. On a égalisé et ensuite on a relâché la pression. Le plus important est de garder la tête froide et de savoir où s'améliorer.
Et l'agacement est d'autant plus grand que cette égalisation vient de cette longue touche bêtement concédée. L'OM a encaissé hier son 4e but en Ligue 1 à la 90e minute de jeu. C'est le même scénario donc que contre Angers, sans compter les fins de match ratées aussi en Ligue des Champions, hein, contre l'Atalanta, contre le Sporting. Mais Roberto De Zerbi, l'entraîneur, avait prévenu, il ne faudra pas tout jeter en cas de contre-performance, et il l'a répété hier soir.
J'espère qu'il n'y aura pas de répercussions, ce serait bête. Il faut garder les choses positives et changer le négatif. Ça nous peine, ça nous énerve, car on a déjà perdu 2 points comme ça contre Angers. J'ai du mal à m'énerver sur les joueurs, car je trouve qu'ils ont tout donné. Il faut qu'on trouve les moyens de progresser, penser à ce qu'on aurait pu faire de plus.
Il a aussi évoqué le rythme de 3 matchs par semaine que son groupe doit encore assimiler, alors que son équipe a fait une mauvaise première mi-temps quand le directeur sportif Mehdi Benassia lui a râlé un petit peu contre l'arbitrage sur une action où Pachao a été poussé de manière assez visible dans la surface, et il a publié sur X, le réseau social, une photo de cette action.
Effectivement, on l'a vu ce matin, cette publication Mehdi Benassia. Merci Valentin, tu restes avec nous évidemment pour ce débat. L'OM a-t-il déjà trop gâché dans la course au titre? Tiens Bennett, je te voyais réagir, être agacé, être dans tous tes états alors qu'on nous parler de la fin du match hier. Non, toi, tu dis que oui, l'OM a trop gâché.
L'OM a trop gâché pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu le cirque du début de saison où ils ont gâché, premièrement, avec le match à Rennes, avec...
Perdu en supériorité numérique et l'affaire Rabiot derrière.
En fait, l'OM, pourquoi je dis ils ont trop gâché? Parce que on sait très bien que s'ils veulent être champions, ils vont pas, à la fin de la saison, ils vont pas avoir 8 points d'avance sur le PSG. Ça va se jouer à 1 ou 2 ou 3 points. Maximum, je pense. Et qu'au-delà de la mauvaise gestion des fins de match, au-delà de certains changements suspects de la part de Zerbi, au-delà de laisser Vermeeren, qui est ton meilleur joueur au milieu de terrain, sur le banc hier parce que t'as 21 ans et que tu peux pas jouer 3 matchs en une semaine, ça, il va falloir qu'on me l'explique vraiment. Il y a surtout le scénario qui se répète, c'est-à-dire que contre Angers, le PSG joue avant eux, fait match nul contre Lorient. Là, tu peux en profiter, tu le fais pas. Et hier, le PSG joue avant eux contre Monaco, perd.
Tu veux dire quoi? Qu'il y a la peur de prendre les commandes?
Non,
il y a un truc mental.
Non, c'est pas la peur de prendre les commandes. Je sais pas ce que c'est, mais dans une saison, il y a des timings, des temporalités où t'as des occasions à saisir pour vraiment passer devant.
C'est le bras qui tremble au moment de servir sur une balle de match.
C'était le momentum.
Mais tu le fais, exactement, le momentum d'une saison. Tu le fais pas à 2 reprises.
Ça reste.
Face à une grande équipe du PSG qui, je pense, va aller crescendo de cette saison, c'est compliqué. Si tu saisis pas ces occasions-là, à la fin, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets.
Pascal, toi, t'es pas d'accord?
Ah non, alors Bennett, franchement, tu sais quoi? En plus, tu m'as donné du grain à moudre pour le sujet sur la responsabilité qui pèse sur les épaules des entraîneurs et des managers. En fait, t'as scié la branche sur laquelle on est assis. T'as taillé des herbies sur des faits que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas parce que t'es pas dans son vestiaire. Donc tu peux pas connaître pourquoi il fait pas jouer le joueur que tu citais. Ouais, tu sais pas. Et il a certainement le bien raison, fondé.
Bien sûr.
Voilà. Donc moi, je vais simplement argumenter différemment. Non, parce que à l'évidence, mathématiquement, après 14 journées, quand t'as 1 point de retard sur le PSG, peut-être 2, parce qu'il faut pas les oublier, sur Lens qui, s'il gagne à Angers, prend la tête du championnat. Donc à la 14e journée, tu as 1 point du PSG, et il reste 20 matchs. Et tu veux pas me dire que t'as trop gâché. Donc sur l'élément gâché, un petit peu ou beaucoup, gâché, que ça soit un peu ou beaucoup, c'est toujours trop. Hein. C'est toujours gâché. Donc oui, ils ont perdu contre Angers 2 points. Ils viennent de perdre hier soir, dans les mêmes circonstances, 2 points. Et à ce titre-là, donc mathématiquement, rien n'est fait. Le deuxième argument, celui-ci, il est plus en termes de concurrence. Je pense, mais encore une fois, c'est ce que je pense à l'instant, que le Paris Saint-Germain a moins de marge que les autres saisons. Donc ça peut être un facteur déterminant pour le titre de champion. Est-ce que Paris Saint-Germain va continuer, comme il vient de le faire sur ses 14 derniers matchs, à perdre 2 fois et à faire 3 matchs nuls? Est-ce que le Paris Saint-Germain va continuer à ne pas mettre chaque fois sa meilleure équipe, et notamment être contrarié par les blessés et ses cadres? Ok. Donc est-ce que ça personne peut répondre. Est-ce que c'est une année sans, une saison sans pour le PSG? La saison dernière, jamais de blessé, cette année davantage. Ça, personne peut y répondre. Je pense que dans les arguments de Marseille, Marseille peut grandement s'améliorer, tant dans le jeu que sur des faits statiques, la touche qui est concédé inutilement hier à la 92e
minute. C'est incroyable, c'est Egan Riley qui fait une passe à la touche en fait.
Ouais, dans mais les Egan Riley, il a rien à faire sur le terrain.
Donc ça, ça voilà. Oui, mais est-ce qu'il va pas s'améliorer? Est-ce qu'il va pas gagner en confiance, ce joueur-là comme les autres? Est-ce qu'ils peuvent pas juguler le fait de prendre 4? Ils ont pris 4 buts après les 90 dernières minutes en championnat. 9 fois, ils ont pris des buts, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Ça, il peut l'améliorer de Zerbi. Les touches longues,
il
peut
pouvoir les gérer. Mais le PSG, non. Ouais.
Marseille va devenir le Laval des années 50. Le PSG est maître de son destin.
Marc, t'es d'accord avec Pascal?
Mais je suis sur la globalité, je suis d'accord avec Pascal. Il y a quand même un championnat, c'est un championnat. C'est un effort de longue haleine.
Ouais. Marathon.
C'est un marathon sur toute une saison complète. On ne peut jamais faire 100% des points qu'on peut obtenir tout au long de la saison. Aujourd'hui, le constat est le suivant. Marseille est à un point de Paris.
Alors qu'il devrait être 14... 2 points devant.
Ouais, mais... C'est pas maintenant que ça va jouer. Ce qu'il faut, c'est être dans le rythme. Aujourd'hui, Marseille est dans le rythme par rapport à Paris, qui a des soubresauts, qui a des difficultés liées notamment aux blessés. Après, où ça va, la différence risque de se faire. C'est au moment crucial de la Ligue des Champions. Si on regarde avec objectivité la situation présente pour Marseille, ça peut se terminer plus vite pour Marseille que pour Paris en termes de...
En tout cas, ils ont moins d'ambition d'aller au bout, effectivement.
En termes de durée de vie dans la Ligue des Champions. Et on le sait tous, la Ligue des Champions est consommatrice d'énergie pour toutes les équipes.
Surtout avec ce PSG qui est déjà fatigué.
Imaginons la logique des choses, Marseille disparaît assez rapidement de la Ligue des Champions, Paris est toujours dans la compétition, donc il y aura forcément des matchs âpres et consommateurs d'énergie en plus pour Paris, qui ne seront plus dans la situation de Marseille. Donc automatiquement, il va y avoir un rééquilibrage qui peut s'opérer. Et je pense que Marseille, aujourd'hui, est toujours dans le match. Et la période cruciale, ce sera la dernière partie du championnat. C'est ce qui fera la différence.
Ouais, mais
il faut rester dans le match.
J'entends ce que tu dis, Marc. Ouais, mais le programme des Marseillais là, jusqu'à la fin de l'année, le prochain match, c'est vendredi à Lille. Et ensuite, avant Noël, il y a la réception de Monaco. Donc en fait, peut-être qu'il y avait la possibilité pour Marseille d'avoir un petit matelas sur Paris avant les fêtes. Et là, ils ne l'ont pas fait.
Même au moment du sprint final, au mois de mars, il vaut mieux, pour battre Pogacar, il vaut mieux partir avec 1 minute 30 d'avance, tu perds quand même, qu'avec 30 secondes de retard. Si tu as l'opportunité de lui mettre 1 minute avant d'intégrer dans l'école, tu as plus de chances. Et l'OM, c'est dans ce sens-là où il gâche. Les autres équipes, on parle de... Il ne faut pas penser que Paris va s'écrouler avec la Ligue des Champions. Ils ont l'expérience maintenant l'année dernière. Ils ont été capable de faire les deux. On va bien voir Arsenal
petit à petit sortir de l'infirmerie
Bayern, le Real et compagnie. C'est vont aller en quart ou en demi de la Ligue des Champions et ils seront pas loin d'être champions dans leur pays. Donc
c'est quand même mieux de prendre 2 minutes sur Pogacar la première semaine du tour plutôt que la première semaine.
On est pas une course cycliste, on est dans un championnat de football.
C'est un marathon aussi, le Tour de France.
La gestion peut être différente pour l'OM. Il n'y a rien de fait. N'oubliez pas Lens.
Non, faut pas oublier
Lens. Lens qui n'a pas de Coupe d'Europe, hein.
Mais Lens qui n'a pas de Coupe d'Europe, qui avance sereinement, tranquillement.
Sans que les GG ne fassent le moindre débat sur eux, ils avancent masqués.
Voilà.
Et ils vont peut-être être leaders du championnat ce soir.
Qu'est-ce que tu veux dire
soir.
Par là, Christophe?
Non, je sais pas. Peut-être que la semaine prochaine, on parlera d'eux.
Qu'est-ce que tu aimes des Lens
qui soient champions? Non, mais je sais pas.
Dans le jeu.
Pardon?
Qu'est-ce que tu aimes dans le jeu Lens soir, par exemple?
Moi, j'aime l'ambiance, l'ampleur.
Non, mais il aime ce que
la folie, la folie à la française.
J'aime qu'une équipe arrive à bien recruter, à bien faire jouer ses joueurs sans énorme pression. Là, ils avancent masqués et je pense qu'il va falloir les surveiller. Quant à l'OM, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, si tu veux être champion de France, tu n'as pas le droit de gâcher autant d'occasions. Ce n'est pas possible. C'est une erreur professionnelle. Ils sont en train de se saboter. Si, mais prendre un but sur une touche, Pascal, même toi, tu n'aurais pas pu,
Pascal, en vrai, franchement, sur cette touche là, donc qui est concédée de manière un peu bête par Egan Riley, était sur le terrain à la place de Deserbi, tu pètes un plomb.
Tu as bien vu, il était au bout de sa vie. Après sa réaction sur le banc, il avait envie d'exploser. Mais bon, c'est ça fait partie du sport, du football en particulier.
Il y a
une
dimension. Il y a pas rentré Egan Riley non plus.
À la 92e, une équipe avec de l'expérience, une équipe qui veut jouer le titre, qui veut devenir leader. Un entraîneur, il peut pas donner des consignes pour.
Si tu veux répondre à la question, Christophe, la question, oui, ils ont trop gâché, mais non, ils sont pas perdus pour le titre parce qu'il reste encore beaucoup de matchs.
Tu parlais de Monaco avant les fêtes de Noël. Il y a la CAN.
Oui, mais il y a également aussi une composante qu'on doit prendre en compte, qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Est-ce que Paris voudra recruter au mercato? Parce que ça, c'est une volonté. Est-ce que Luis Enrique le veut ou pas? Et est-ce que Marseille pourra améliorer les choses? C'est aussi un argument.
C'est important. Voilà. Effectivement, le mercato d'hiver.
Un argument qui va mettre tout le monde d'accord. Si Paris peut recruter deux ou trois joueurs pour juguler les blessés jusqu'à la fin de saison, ça sera entendu pour le titre. Et est-ce que Marseille peut s'améliorer? En recrutant quelques joueurs, s'il le peut, ça pourrait être bien pour ce titre de champion qu'ils espèrent et qu'on voudrait les voir lutter jusqu'au bout.
Supporters marseillais, on vous attend au 32-16, évidemment, participer au débat. Tiens, j'ai un message de Laurent sur le WhatsApp 06-12-424-424 qui me dit perdre contre les équipes de la seconde moitié du championnat, ce n'est pas normal pour l'OM. Et oui, c'est déjà arrivé l'année dernière, hein, souvenez-vous, ces points perdus contre Auxerre, notamment, qui avaient pesé dans la balance et notamment dans la tête des Marseillais. On continue d'en parler dans quelques instants. Est-ce que l'OM a déjà trop gâché dans la course au titre? On peut-être développer aussi ce que vous avez dit. Est-ce que le PSG a moins de marge cette saison? On en reparle dans quelques instants, hein, tout de suite.
Moi, on me dit, je vais finir premier ce soir, je meurs sur le terrain. Je reste pas comme ça.
RMC jusqu'à midi.
Prends un but sur une touche.
Une touche quand même.
C'est pas normal.
Les dernières minutes, je sais pas pourquoi, on dirait on a plus rien, on joue plus.
Les grandes gueules du sport.
À chaque fois, ils nous font inspirer. Et à la dernière
c'est comme ça, l'OM. Voilà.
Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'aime comme aussi, mais à un moment donné, je sais pas.
En tout cas, on sera là au prochain match, y'a pas de problème.
Georges Quirino.
Ah et oui, ils seront toujours là, évidemment, les supporters marseillais, vous les avez entendus hier à la sortie du Vélodrome. Beaucoup de frustration après cette égalisation à la dernière seconde des Toulousains. Les Marseillais avaient l'occasion de prendre les commandes de la Ligue 1 et non à cause de ce nul de partout alors que Paris s'était incliné face à Monaco un peu plus tôt. L'OM a-t-il déjà trop gâché dans la course au titre? C'est la question que l'on se pose depuis tout à l'heure avec Julien Beneteau, Pascal Duprat, Marc Madiot et Christophe Cessieux et vous les supporters marseillais au 32-16. Tiens, Philippe nous appelle. Salut Philippe.
Salut l'équipe.
Bon, c'est quoi ton état d'esprit ce matin? T'as l'impression que Marseille a déjà grillé trop de jokers peut-être dans la course au titre?
Ouais, alors si je peux me permettre avant de commencer, juste je voulais te féliciter pour avoir pris le relais de JC parce que c'est loin d'être évident de succéder à JC. Tu le fais très bien et notamment le vestiaire, vous me régalez tous les week-ends avec
ça,
le vestiaire.
Ça nous touche énormément. C'est à 11h le rendez-vous du vestiaire.
On a le droit de venir ses amis privés à l'antenne.
C'est mon tonton Philippe qui appelle de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Merci Philippe. Bon alors du coup toi tu penses que Marseille a peut-être trop gâché?
Ouais bien sûr qu'on gâche trop de points. Alors après, au-delà du titre ou de passer devant l'OM, il y a le temps, hein, y a plein de points encore à prendre. Mais par contre, c'est vrai que si on veut avoir l'ambition de jouer le titre, parce qu'on a quand même l'ambition d'être dans les deux premiers, même d'être deuxième, si l'ambition n'est que d'être deuxième, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à domicile de perdre ce type de points-là. Parce que y a des équipes, et notamment au-delà du PSG, qui en effet a plus de marge et au-dessus. Il y a Lens qui est costaud, Monaco ne sera pas loin, Il y a d'autres équipes qui peuvent jouer le podium. Donc rien que pour ça, à domicile, contre des équipes comme Toulouse. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, hein, mais on n'a pas le droit de perdre des points comme ça.
Non mais c'est vrai, il y a le côté effectivement perdre ces possibilités là à domicile, quoi, quand on connaît l'importance du Vélodrome, aussi ce que ça peut jouer derrière. Franchement, Bennett, Marseille qui craque quand même comme ça à domicile, alors qu'on pensait que peut-être on était passé à autre chose, et qu'il y avait plus de maîtrise, c'est quoi, ça te rappelle de mauvais souvenirs de la saison dernière en fait?
Pas forcément des mauvais souvenirs parce que je pense qu'ils ont augmenté et qu'ils sont progressés par rapport à la saison dernière, donc c'est pour ça que les ambitions sont un peu plus élevées. L'année dernière, je me souviens, au début de saison, est-ce que c'est l'année de l'OM, est-ce qu'ils vont... Moi je disais non mais attendez, bon, ils sont très 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 loin du PSG. Là effectivement ils sont qu'à un point, le PSG est un peu moins bon. Le problème c'est qu'il y a certaines choses, De Zerbi fait beaucoup tourner, il veut impliquer tout le monde. Je pense qu'hier...
Alors mais d'ailleurs, tu l'as dit, il y a eu des changements suspects de Zerbi.
Moi je pense qu'hier, à un moment donné, on mène pas 3-1, 4-1, 5-1. Il n'y a que 2-1, il ne doit pas être là pour donner du temps de jeu.
Ils ont joué il y a 3 jours.
Après juste...
Alors qu'est-ce que tu reproches dans les choses? Ah Valentin.
Je ne vois pas, toi Emerson, il ne peut pas jouer 10 minutes de plus quand tu es arrière à la place de Egan Riley. Comme par hasard, Egan Riley, il est mauvais depuis les blessures. Enfin, je veux dire, il faut être un grand spécialiste du football pour le savoir.
Parce qu'il sort à guerre qui revient de blessure.
Oui, ça, je comprends.
Valentin. Ben alors,
non, mais pour ces deux cas-là, messieurs, Emerson a demandé à sortir, c'est ce qu'on nous a dit. Et Aguerd revient de blessure, il avait manqué 3 matchs sur Pubalgie, donc il a été remplacé par Balerdi. Et Emerson s'est mis au sol à un moment. Sinon, je pense qu'il serait resté, puisque c'est plus ça. C'est un joueur de couloir et Egan Riley l'a remplacé. Mais il y avait un petit pépin physique pour Emerson. Et en fait, hier, Roberto De Zerbi, alors, a beaucoup insisté sur ça en disant que mon équipe est encore en train d'apprendre à jouer tous les 3 jours et que le jouer Nice, Newcastle et Toulouse dans la même semaine, c'est trop pour l'OM. C'est ce qu'on a ressenti dans le discours de De Zerbi. Après, est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que l'effectif est taillé pour ça ou pas? Mais jouer le titre en jouant la Ligue des Champions et en faisant des semaines à 3 matchs avec cette intensité et cette pression, on a ressenti vraiment dans le discours de De Zerbi que son équipe était encore en rodage.
Alors, le match de Nice, d'accord, il est énergivore, sauf que t'as pillé le match et à la 50e, 60e, tu fais tourner et tu donnes du temps de jeu parce que tu prépares le match de Newcastle. Que le match de Newcastle soit énergivore, intensité physique, mentale, etc., aucun problème. Ligue des Champions, je le comprends. Newcastle, gros adversaire, pas de souci. Toulouse à domicile, tu mets l'intensité qu'il faut et à la 60e, c'est plié.
Il faut pas sous-estimer ça quand même, la découverte pour certains joueurs de ces matchs tous les 3 jours.
Alors là Bennett, tu vas sur la fin de match. Alors pour avoir vu le match, moi je vais aller plus en profondeur. Marseille a commencé à jouer à la mi-temps.
Oui.
Donc ça c'est plus répréhensible.
Mais déjà contre Newcastle aussi.
Ok. Ça c'est plus répréhensible, le fait de ne jouer que la deuxième mi-temps.
Bien sûr.
Et en plus, attention, si Toulouse joue bien les coups, il y a 2-0 avant que Marseille n'égalise. Donc le match aurait pu être plié avant. Donc la source de progression à l'OM, elle est multifactorielle, mais surtout le fait qu'ils doivent être plus constants. Après, l'argument faire tourner son effectif, en fait le seul argument où j'ai envie de l'épingler, c'est sur celui-ci. Oui, on n'est pas suffisamment mature pour jouer 3 matchs d'affilée. Tu veux que je te donne la composition de l'effectif de l'Olympique de Marseille? Tu vas me dire que Pavard, il n'est pas capable de jouer tous les 3 matchs. Ça fait 10 ans qu'il le fait. Et j'en passe et des meilleurs. Donc cet argument-là, il tient pas. Après, l'argument où il veut faire tourner son effectif parce que c'est énergivore, la Champions League, et le fait de jouer tous les 3 jours, là, on est obligé de souscrire à cette idée-là.
Tiens, j'ai un message sur WhatsApp. On remercie Philippe. Hein, de nous avoir rappelé on le remercie plus que jamais d'ailleurs, vu tout ce qu'il a dit.
Merci Philippe. Oui, merci pour tout.
Tiens, il y a Chris sur WhatsApp au 06 12 424 424, qui est un peu dans le sens de ce que tu disais Marc tout à l'heure, mais aussi qui rappelle le PSG va pouvoir s'économiser 2 matchs de Champions League contrairement à l'an passé. Oui. Déjà parce qu'ils sont déjà qualifiés, mais aussi parce qu'ils vont pas devoir passer par la phase de barrage, alors que l'OM va Marseille devoir peut-être se battre jusqu'à la dernière journée pour se qualifier. C'est important ça, quand on sait que cette équipe découvre aussi, Marc, le stress. Ouais, redécouvre le stress aussi de jouer souvent avec de l'enjeu. Enfin,
Paris ne s'est pas fait en un jour, hein, donc c'est la même chose pour l'OM. Il faut du temps, il faut s'adapter, il faut aussi de la constance. Et moi, j'ai envie d'être un peu protecteur pour l'OM. Ils perdent des petits points ici ou là, mais ce qui compte, c'est la ligne directrice, c'est la colonne vertébrale de leur saison et de leur championnat. Aujourd'hui, ils sont mathématiquement à un point de Paris. Ils ont une équipe qui tourne. Ils sont opérationnel en Ligue des Champions. Pour moi, le point de bascule, ce sera février-mars de l'année prochaine. Mmh. C'est là que ça va jouer. C'est là où ils seront capables de jouer le titre ou pas. C'est à ce moment-là que ça va se jouer. Je vais vous dire, même s'ils avaient 3-4 points d'avance aujourd'hui, je vous dirais...
Il ne faudrait pas s'enflammer.
C'est rester dans le rythme.
Le rythme sera un peu plus élevé. Mais je suis d'accord avec Marc.
Mais ça, on ne sait pas. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce truc, à chaque fois, on pense que Paris, à un moment donné, va récupérer tous ses blessés et que tout va redevenir comme avant. On ne le sait pas, en fait.
La vie de Marseille ne doit pas se faire par rapport à Paris.
Parce que regardez la marge. Si on parle de la marge, en 24-25 la saison dernière à pareille époque, Marseille était deuxième, avait déjà 6 points de retard. L'année précédente, c'était Nice qui avait 4 points de retard. Et si je remonte jusqu'en 22-23, c'était Lens qui avait 5 points de retard à pareille époque. Donc aujourd'hui, Paris a moins de marge. Ça, c'est factuel. Ils n'ont qu'un point d'avance. Donc qui me dit, parce que vous me dites tous la Ligue des Champions énergivore que pour Marseille. Qui me dit que si Paris va encore loin en Ligue des Champions et que Marseille est au coude à coude en championnat, qui vous dit que Luis Enrique, s'il a un demi-finale de Ligue des Champions à jouer, il fera pas l'économie, il mettra pas les coiffeurs en championnat? Mais est-ce qu'il préférera pas gagner la Ligue des Champions que gagner la
Ligue 1?
Fait hier, Pascal, il a fait que 3 changements par rapport à
parce qu'il a considéré que le match de Monaco à ce moment-là était très important.
Mais il connaît quand même l'état physique de ses joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs parisiens apathiques hier. J'ai senti qu'il y avait de la fatigue dans les jambes.
Le plus mauvais match que Paris ait disputé hier.
Il a un pire match de la saison. Un entraîneur doit savoir, doit ressentir les choses, j'imagine. Non, mais Pascal, tu sens quand même à l'entraînement ou même en match que tes mecs sont un peu au bout du rouleau. Et là, quand tu continues à aligner les mêmes et que tu vois le visage présenté par le PSG qui n'est pas du tout le même que 3 jours auparavant,
là aussi, c'est une erreur de la part du coach. Mais les coachs, ils ne font que des choix. Et les choix, on les commente à la fin. Mais ils ont choisi. Simplement sur la Ligue des Champions, j'aimerais me faire comprendre. Hier, ils ne sont pas en train de disputer. C'est pas vital pour la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain. Donc ils considèrent qu'ils mettent sa meilleure équipe. Mais admettons qu'on se projette en avril. Et en avril, Marseille est au coude à coude. Avec Paris. Et que, Marseille est éliminé de la Ligue des Champions. Je leur souhaite pas de malheur. Et Paris Saint-Germain est toujours en course. Mmh. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique et tous les Parisiens vont considérer que c'est plus important de gagner encore le championnat plutôt que de préserver ses chances en Ligue des Champions mettant l'équipe de coiffeur en Ligue 1?
Mais je pense que l'équipe de coiffeur en Ligue 1 le samedi contre Toulouse ou Angers au Parc des Princes fera la différence. Là où l'OM n'aura pas fait la différence.
Marseille, en tout cas, n'est pas leader du championnat ce matin parce qu'ils ont laissé passer l'opportunité en voyant l'égalisation toulousaine en fin de match. C'est toujours Paris qui est aux commandes malgré sa défaite hier face à Monaco. Et c'est surtout Lens qui a l'opportunité à 17h15, déplacement à Angers en cas de succès, de devenir le leader du championnat. Merci Valentin Jamin d'avoir été avec nous. Beaucoup de messages sur le WhatsApp 06 12 424 424. Roger notamment qui nous dit le maillon faible de l'OM c'est Dezerbi. Voilà, avec les compositions d'équipe, il y a beaucoup de messages contre Dezerbi ce matin. Les supporters marseillais un peu agacés, peut-être des choix notamment en fin de match. Valentin a un peu expliqué quand même les raisons notamment des changements. Dans un instant, le zapping, on va parler rugby. Antoine Dupont était de retour avec Toulouse et ça s'est bien passé. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Marc Madiot, Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Julien Beneteau. Dans un instant sur le ring à 10h, on va parler Formule 1, un grand prix fascinant qui nous attend à 17h au Qatar avec la course au titre qui nous promet encore un grand suspense même au premier virage. C'est Piastri qui partira devant Norris et Verstappen. On se pose la question, Piastri a gagné la course sprint hier. Piastri est-il le vrai adversaire de Norris dans la course au titre? On vous attend sur le compte XDGG pour voter. Mais d'abord, tout de suite, vous me dites si on s'en fout ou on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. Les amis, le tacle fou sur Lucas Chevalier hier lors de Monaco PSG. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Pascal Duprat.
Je ne m'en fous pas.
Marc Madiot.
Je ne m'en fous pas.
Julien Benneteau.
Ouais, je m'en fous pas.
Le gardien parisien a été victime d'un tacle en retard impressionnant de Lamine Camara sur sa cheville droite à la 12e minute de jeu. Il y avait 0-0 à l'époque, hein, au moment.
À l'époque.
À l'époque, vous vous rappelez quand on était jeunes, il y avait 0-0 entre Monaco et Paris. Monsieur Turpin n'a pas exclu le Monégasque. Il y a juste mis un jaune. Il n'a pas non plus fait appel à la VAR.
Ou la VAR n'a pas fait appel pour qu'on remette en cause éventuellement Monseigneur Turpin.
C'est surtout ça. Chevalier au micro du diffuseur à la fin du match.
Pour ma cheville, écoutez, voilà, je pense que tout le monde a vu. Et je pense qu'aujourd'hui, ma carrière elle aurait pu prendre un tournant. Parce que des fois, il y a des gestes qu'on doit éviter. Et voilà, aujourd'hui, je sais juste que j'ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines.
J'ai eu beaucoup de chance. Luis Enrique, lui, ne parle jamais des arbitres. Jamais. Mais là, il était très proche de craquer.
Lucas Chevalier, il a eu beaucoup de chance. Aujourd'hui, c'est mon position. Je voudrais parler beaucoup et beaucoup et beaucoup. Je préfère dire Lucas Chevalier a eu beaucoup de chance. Je pense que c'est suffisant. Il faut lire entre les lignes, hein.
Voilà. Bon, on a bien lu entre les lignes, Louis. On a compris où tu voulais en venir.
C'est très bien.
Après,
comme communication.
Excellent. Hein, il a tout dit. Il ne dit rien sur l'arbitre, mais il dit tout, quoi.
Ouais, mais c'est très bien comme communication. Bon. Il y en a qui prennent des captures d'écran, là, sur des poussettes, pour gagner 3-1 contre Toulouse au Vélodrome.
Les gens du service de presse du PSG ont très bien fait les choses, puisqu'à la mi-temps, tous les gens qui suivent le PSG ont reçu les photos de la cheville de Lucas Chevalier, ce qui a quelque peu mis la pression quand même sur Monsieur Turpin, qui derrière, je pense, a mis un carton rouge
il a mis un jaune et la VAR lui a fait changer de son avis pour le deuxième carton.
Mais tu penses pas, ça arrive pas, Pascal?
Pour moi, il n'y a pas rouge. Autant il y a rouge la première fois, direct, autant il n'y a pas rouge la deuxième.
Ouais, voilà. Bon, Pascal, ça t'a scandalisé ce non rouge sur Lamine Camara?
Il y a deux choses. Je comprends Lucas Chevalier, mais bon, il fait du foot, quoi. Donc, s'il fait du foot, la blessure, elle existe au foot, quoi. Voilà, ça, c'est la première des choses. Donc, tant mieux, il n'est pas blessé. Et la deuxième, c'est que, c'est pour ça que ça nous arrive, excepté Luis Enrique, ça nous arrive de gueuler après les arbitres, parce que c'est incompréhensible. Ils sont plusieurs arbitres et ils n'arrivent pas à déterminer que ça méritait rouge. C'est tout. Voilà. C'est rouge sur pour Camara.
Non mais aujourd'hui, l'arbitre de champ, il peut louper l'action. Ça arrive. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, pourquoi on est 99% d'accord tous autour de la table pour se dire qu'il y a carton rouge quand tu revois les images? Et donc ceux qui sont dans le camion de la VAR, pourquoi eux ne sont pas d'accord? Pourquoi c'est pas évident pour eux?
Parce qu'ils n'ont pas voulu.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont peur de Turpin? Comment ils utilisent la VAR dans le football? Est-ce que c'est vraiment pour aider l'arbitre ou est-ce que c'est pour juger l'arbitre? Enfin, pourquoi dans les autres sports ça marche?
Pour toutes les questions que tu poses qu'on n'y comprend rien.
Voilà.
Est-ce que c'est du corporatisme?
Exactement.
C'est-à-dire que Turpin, c'est le numéro 1 des arbitres, donc on ne le déjuge pas?
Non, mais là
ou est-ce que c'est parce qu'ils sont en train de manger un sandwich? Ouais, mais qu'ils n'ont pas vu l'image, j'en sais rien, moi.
Je disais à l'antenne qu'ils étaient tous allés au casino jouer à la roulette russe, avec de la VAR, ils sont revenus en fin de match.
En fait, aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin de réponses claires. Là, aujourd'hui, par exemple, dans n'importe quelle émission de football, il faudrait que Michael Landreau, qui travaille pour les arbitres, qui a la direction, on lui pose la question avec les images. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'il explique.
Ils ont décidé de ne pas
appeler Turpin. Donne-nous une vraie réponse.
D'accord avec toi, Christophe.
Et on se souvient, en plus,
à Monaco,
il y avait également eu Donnarumma avait failli être défiguré.
Oui,
avait été défiguré. Il n'y avait pas de carton.
Tuer le spectacle. Je suis d'accord, Pascal, mais c'est vrai que dans la fluidité d'un match, mais il y a des choses quand même que tu ne peux pas laisser passer. Autrement, tu la mets à la poubelle là-bas. Si elle sert à rien, si elle ne fait que de gâcher le spectacle, tu prends les appareils, tu les mets à la poubelle et basta, quoi. Mais elle ne sert à rien dans ces cas-là. Et ces mecs-là, derrière leur caméra, ne servent à rien. Ils sont payés comme des mineurs et ils ne servent à rien.
Christophe, ils sont bien payés quand même.
Marc, c'est scandaleux ce qui s'est passé hier pour toi aussi?
Ça fait partie de ce qu'on rencontre dans un match. Parfois, l'arbitrage va dans le bon sens, d'autres fois un peu moins. Hier, c'est vrai qu'il aurait dû y avoir carton rouge sur cette action. Maintenant, la VAR, le problème des arbitres qui sont devant les vidéos, on leur reproche assez souvent de casser le rythme du match. Donc s'ils interviennent trop souvent, on va leur dire vous débordez, vous laissez pas assez de place à l'arbitre de terrain, et à l'inverse aussi. Donc c'est toujours difficile. Et là, on était quand même dans la première partie du match, donc il y avait, je pense, une volonté de
à la deuxième minute,
c'est pas tuer le match.
Mais moi, d'accord.
Ouais. Donc commettez vos grosses fautes en début de match, comme ça vous.
Non, en revanche, je ne trouverai jamais qu'un match est trop haché s'ils doivent regarder des images. Surtout ouais, mais quand il y a l'intégration
dans ton fauteuil,
surtout.
Surtout quand il y a l'intégrité physique
d'un joueur qui peut être mis en cause. Là, il peut lui casser la cheville. C'est comme au rugby quand ils prennent beaucoup de temps, quand il y a les chocs à la tête pour savoir si c'est un jaune ou un rouge. Et ben tant pis, si ça doit hacher le jeu, c'est l'intégrité physique des joueurs, c'est pas tant pis.
Est-ce que Lucas Chevalier n'en a pas fait assez finalement, peut-être.
Bah,
peut-être
qu'il s'est aussi déroulé dans tous les sens.
Mais il est resté au sol pendant de longues minutes et on a vu la photo à la mi-temps.
On attend comme d'habitude là, lundi le communiqué des arbitres.
On reproche à un joueur de foot de ne pas avoir fait assez de cinéma. Christophe l'a fait.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, en fait, moi j'accepte, ce sont des hommes dans le bus. Donc l'erreur est humaine. C'est mieux. C'est une aide à la décision juste. Moi, ce qui m'horripile, c'est que les décisions en fonction des matchs, elles sont pas les mêmes.
Voilà.
Il y a pas d'uniformisation de la sanction. Donc, c'est incompréhensible leur truc.
Ils ont droit à l'erreur, mais s'ils appellent Turpin pour qu'il vienne vérifier, à ce moment-là, ils s'enlèvent le poids des épaules. Et c'est à l'arbitre
déjà rien de juger. Le fait de l'appeler, ça veut dire qu'il subodore, qu'il s'est trompé.
Ouais. Et je précise que ça veut dire rouge. Tout à fait juste qu'ils ne sont plus dans un car ou dans un bus, ils sont dans un bunker. Ils ne sont pas au stade, ils sont à Paris
pour éviter les critiques.
Allez, on zappe tout de suite. Je m'en fous pas. 9 mois après son dernier match, Antoine Dupont a rejoué, a même été décisif hier avec le Stade Toulousain. Christophe.
Oh bah, on s'en fout pas évidemment.
Marc.
On ne s'en fout pas.
Pascal.
Mais on s'en fout pas.
Bennett.
Mais on s'en fout pas.
266 jours après sa blessure, la star toulousaine est entrée à la 49e hier face au Racing 92 sous l'ovation d'Ernest Vallon. Il a été décisif donc sur l'un des essais du stade. Vainqueur facile 48-24. Comment tu t'es senti, Toto?
Bah, plutôt bien. Je me suis de suite vite senti. Le système n'a pas bougé. Les mecs, je les connais par cœur. Donc les automatismes sont très bien revenus. C'était juste mes qualités athlétiques qu'il fallait que je retrouve. Et ça va de mieux en mieux. J'ai encore un peu de boulot, mais les sensations sont bonnes.
Au micro de Canal Plus hier, belle entrée de Dupont. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous l'avez vu un peu impressionnant?
C'est sûr que c'est pas la même entrée que lors de ses deux précédents retours, lorsqu'il avait inscrit 3 essais. Mais on le disait hier. Je pense qu'il fallait revenir. Crescendo, il l'a fait une très bonne entrée, mais je pense qu'il va lui falloir quelques semaines pour retrouver vraiment tout son talent. En tout cas,
il était en canne quand même.
Et puis, il donnait pas l'impression de craindre finalement, parce qu'on sait qu'après une telle blessure, surtout 2 fois au même genou, tu peux te dire, tu peux douter de ton corps, tu peux te dire est-ce qu'il va pas me lâcher une 3e fois. Là, on l'a pas du tout senti dans cet esprit-là, et c'est plutôt rassurant pour la suite.
Mais voilà, il est bien Antoine Dupont. Allez, on zappe parce que le dernier là, il va être intéressant. Je m'en fous pas. Les Émirats créent des montagnes artificielles pour permettre aux coureurs qu'ils financent, Tadej Pogacar, d'être champion du monde chez eux. Je regarde Marc Madieu dans les yeux. Tu t'en fous pas?
Je m'en fous pas.
Christophe?
Je m'en fous pas non
Pascal.
Plus.
Pascal?
Moi, je vais écouter Marc, donc je m'en fous.
Bennett?
Je m'en fous pas, mais je vais écouter Marc. Donc là, on n'est même plus sur un cyclisme à 2 vitesses, c'est un cyclisme à 12 vitesses.
Ah, ben c'est un cyclisme qui change le monde, ouais, tout simplement.
J'étais pas au courant de cette nouvelle,
le quotidien espagnol Marca, qui a enquêté très sérieusement sur le sujet, Abu Dhabi, la capitale des Émirats, bâtit ses collines depuis 2023. Pour ce remodelage, j'utilise du sable extrait du désert, des granulats et un asphalte spécialement compacté pour supporter des températures élevées. En 2028, il y a une colline qui s'étirera sur 3,8 km, alors qu'elle n'existait pas avant, avec une pente à 11% de moyenne. Sur le dernier kilomètre, ce sera même encore plus puissant. Le but de tout ça, probablement avantager Poggi aux championnats du monde qui se dérouleront à Abu Dhabi en 2028. Les Émirats rêvent de voir triompher le Slovène, star de l'équipe UAE sur leur terre, remodelé du coup pour l'occasion. T'en penses quoi, Marc?
Je sais pas trop quoi penser. Je suis pas un ayatollah de l'écologie. Mais il y a quand même des bases et des règles à respecter élémentaires. Qu'il y ait un championnat du monde là-bas, pourquoi pas. Mais en arrivée, alors si ce qui est rapporté par la presse espagnole est vérifié, si on en arrive à ce type de situation, c'est dramatique pour notre sport et indirectement sur les autres sports où ça veut dire qu'on peut tout faire et n'importe quoi. Pour moi, je trouve qu'on est dans une forme de virage dans ce que doit être ou peut encore être le sport. Je pense que la Fédération internationale et son président ont besoin de reprendre la main sur ce type de situation. Je suis désolé, c'est l'UCI qui attribue les championnats du monde. à partir d'un cahier des charges. Et je n'ose pas imaginer que l'UCI accepte dans le cahier des charges qu'on fasse une montagne artificielle au prétexte de durcir la course, voire d'avantager un coureur. Je pense que là, on est dans une vraie.
Tu sais que l'Arabie Saoudite veut organiser les Jeux Olympiques d'hiver, hein, donc là aussi, ils sont prêts à tout.
Ils vont organiser des Jeux d'hiver,
je souscris complètement à ce qu'il y a des remarques. Mais en fait, moi, je suis terrifié par l'UCI, le CIO, la FIFA.
Toutes les fédérations internationales.
Bon, l'ITF pour autre chose au tennis.
Ils sont prêts à tout pour prendre les thunes du golf.
Exactement. En fait, pour l'argent, exactement. Ils sont prêts à tout. Nous, l'ITF, ils ont vendu leur âme avec la Coupe Davis pour l'argent. Là, l'UCI, comme dit Marc, on va créer des collines artificielles pour le spectacle, pour favoriser Pogacar. C'est surréaliste. On va donner.
Ils vont refaire l'Alpe d'Huez, peut-être. Ils vont faire 20 terrassés dans le désert.
En Arabie Saoudite, on ne sait pas quand est-ce que ça va se jouer. Ça, déjà, il y a eu ça avec le Qatar. Les éventuels jeux d'hiver asiatiques en Arabie Saoudite. Enfin, on marche sur la tête, mais toutes les fédérations internationales, ça encaisse.
Parce que les pétrodollars entrent dans les caisses
et c'est terrible.
De ces messieurs et tout va bien.
On n'est plus que jamais dans l'ère du sport business. Ouais. On peut le regretter, effectivement.